Studio Tamani, toutes les voix du Mali.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Il est 18h à Ségou et c'est la même heure sur l'ensemble de nos radios partenaires. Monsieur, dame, bonsoir et bienvenue. La traque des djihadistes dans le nord du pays se poursuit. Du 28 février au 28 mars, une opération baptisée Osso, conduite par la force Barkhane avec l'appui des forces armées maliennes, s'est déroulée dans les régions du Gourma, Ansongo et Menaka. Certains observateurs jugent cette opération insuffisante. Selon eux, il faut une meilleure coordination de toutes les forces militaires présentes au Mali pour mieux lutter contre le terrorisme dans le Sahel. Application de l'accord de paix et de réconciliation. Une rencontre sur l'intégration des ex-combattants a débuté ce matin à Bamako. Pendant 4 jours, les officiers maliens vont étudier ce processus. Face à l'insécurité alimentaire, le HCR demande le rapatriement des 34 000 réfugiés maliens vivant au Burkina Faso. Selon le ministère de la Solidarité, les retours ont déjà commencé. À la présentation, Mariam Maïga. La force Barkhane poursuit la traque des djihadistes dans le nord du Mali. Elle a conduit du 28 février au 28 mars une opération appelée Osso dans les régions du Gourma, Ansongo et Menaka en appui des forces armées maliennes. Objectif, sécuriser cette vaste région située à l'ouest de Gao en renseignant sur les capacités des groupes armés terroristes. Le point avec Issafa Kabasisoko.
L'opération a mobilisé pendant un mois plus de 600 soldats et 200 véhicules de la force Barkhane et regroupés en unités spécialisées dans la recherche et la reconnaissance au sein d'un groupement tactique de reconnaissance. Ces unités se sont engagées aux côtés de plus de 200 soldats maliens sur une zone de près de 1200 km². Au cours de cet engagement, le GTR a expérimenté pour la première fois l'utilisation de quads, des engins légers et rapides qui lui ont permis d'atteindre les zones les plus difficiles d'accès. Selon la force Barkhane, cette action a permis aux forces maliennes de rassurer la population et de favoriser la reprise des échanges économiques dans la région. L'opération a également permis de renforcer la coopération et l'échange de renseignements avec les forces armées nigériennes le long de la frontière, permettant un contrôle plus efficace de la zone.
200 militaires maliens ont participé à cette opération d'un mois. Pour certains observateurs, il s'agit d'une bonne chose, mais insuffisante. Selon eux, il faut asseoir une meilleure coordination militaire entre les forces armées maliennes, onusiennes et celles de la CEDEAO pour mieux lutter contre le terrorisme dans le nord du Mali et dans le Sahel. Serge Daniel est journaliste et écrivain. Il est au micro de Issafa Kabasisoko.
C'est toujours utile de sécuriser ces zones-là, d'aller dans des localités où des populations n'ont jamais vu ou voire rarement des forces de sécurité arriver. Mais pour moi, je vais vous décevoir, ce n'est pas la solution. Donc, ce sont des opérations qu'on mène depuis 4 ans, depuis le départ des djihadistes. Je pense qu'il y a un problème de coordination militaire entre l'armée malienne, le casque bleu, les forces de l'opération Barkhane et les forces de la CEDEAO. Vous ne pouvez pas, de manière efficace, organiser une patrouille dans la zone d'Ansongo sans que l'armée nigérienne, à côté, participe à ces opérations-là. Donc, bonne chose que ces opérations se déroulent. Pour faire face à cette guerre asymétrique, il faut une meilleure coordination entre l'armée malienne, les casques bleus, la force Barkhane et surtout les forces de la CEDEAO. Donc, ce que gagnent les militaires maliens, c'est qu'ils gagnent à s'habituer au terrain, à voir comment on peut travailler en équipe, mais également à se rendre compte d'une réalité, c'est que la paix définitive dans le nord du Mali passe par le contrôle des lieux de l'armée malienne.
Et réagissez à toutes ces informations sur la page Facebook, le compte Twitter du Studio Tamani.
Studio Tamani.
Une rencontre sur l'intégration des ex-combattants a débuté ce matin à Bamako. Pendant 4 jours, les officiers maliens vont réfléchir sur ce processus. Selon le ministre de la Défense et des anciens combattants, toutes les mesures seront prises pour éviter les erreurs qui ont été commises dans le passé. Tchaman Hubert Koulibaly est au micro de Omar Waigalo.
Vous savez que nous avons signé un accord de paix. Et cet accord de paix prévoit que des ex-combattants des groupes signataires qui voudraient continuer dans le métier des armes puissent être accueillis dans l'armée nationale. Ceux qui auront pris la décision et qui auront été jugés aptes à travers un certain nombre de processus de sélection de servir dans l'armée nationale doivent faire l'objet d'une ce qu'on appelle une intégration.
que faut-il faire pour éviter les erreurs qui ont été commises dans le passé?
Vous-même, vous dites qu'il y a eu des erreurs. Vous, vous êtes au courant. Si vous, vous êtes au courant, ça veut dire que nous sommes au courant. Donc ces erreurs-là, nous allons les éviter. Mais attention, la crise à laquelle nous avons fait face au Mali depuis 2006 n'est pas la même que celle des rébellions des années 90. Ce n'est pas la même chose. Nous avons les terroristes qui se sont invités dans le débat, les trafiquants de drogue. Nous avons le prétexte religieux qui s'est invité dans le débat, ce qui rend cette crise beaucoup plus complexe.
Le nouveau gouverneur de Menaka, Daouda Maïga, a prêté serment ce matin au tribunal de grande instance de Gao. Le développement, la sécurisation et la cohésion sociale sont les défis majeurs qu'entend relever le gouverneur de Menaka. Selon Daouda Maïga, la sécurisation de Menaka devrait plutôt être gérée de façon locale que militaire. Il est joint au téléphone par Moumine Sendebou.
Menaka étant précédemment un cercle, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de conditions. Donc là, il faudrait rapidement déployer l'administration et mettre Menaka au même diapason que les autres gens du Mali. Faire participer les populations à la prise en charge de leur sécurité à travers des cadres de concertation où tous les groupes sociaux sont représentés. Donc les différents problèmes qui se créent entre les groupes sociaux, pouvoir les gérer de façon locale, que tout ne soit pas une gestion militaire. Sans compter que la création de la région de Menaka suivra plus tard la création d'une région militaire, d'un commissariat de police, d'une légion de gendarmerie. Ça, c'est les dispositions sécuritaires traditionnelles. Mais concomitamment, il faudrait pouvoir faire participer les populations à la gestion de la sécurité, donc à l'atténuation des risques liés à la sécurité, et que cette gestion puisse être menée par des leaders connus et reconnus par tous, et que les différents problèmes de sécurité ne débordent pas pour être des conflits ouverts.
La situation des 34 000 réfugiés maliens au Burkina Faso est une fois évoquée ce matin lors d'une réunion entre les autorités maliennes, celles du Burkina et le HCR. Face à l'insécurité alimentaire qui les menace, il a été question de leur rapatriement. Selon le ministère de la Solidarité, à la date du 31 mars, près de 44 000 réfugiés sur la totalité de ceux qui sont encore dans les camps sont déjà rentrés au pays. Samba Al-Hamadou Babi, secrétaire général du ministère de la Solidarité, est au micro de Imirana Kilumaïga.
Suite aux avancées constatées sur le plan sécuritaire, le pays a enregistré au 31 mars 2016 environ 43 938 réfugiés qui sont retournés de façon volontaire et spontanée. Certaines actions réalisées dans le cadre de l'accompagnement au retour des réfugiés. On peut citer, entre autres, la réalisation de 7 nouveaux points d'enrichissement de retour des réfugiés en plus des 21 points déjà fonctionnels en collaboration avec le HCR. La réalisation de 1030 activités génératrices de revenus au profit des rapatriés pour 184 525 000 francs CFA. L'aménagement et la réhabilitation de 4 zones de retour des réfugiés dans la région du Nord pour 230 millions de francs CFA et 5 autres en cours d'aménagement pour 252 millions de francs CFA.
La Journée mondiale de la santé a été célébrée aujourd'hui au Mali. Cette 7e édition a retenu le thème du diabète. Selon les spécialistes de la santé, il existe aujourd'hui 422 millions de cas de diabète dans le monde. Au Mali, le nombre exact n'est pas connu, mais certaines études montrent que le taux de prévalence est de 6% de la population. Selon le professeur Sidibé Assa-Traoré, endocriminologue et diabétologue à l'hôpital Gabriel Touré, il faut consommer moins sucré et moins gras pour éviter le diabète. Elle est au micro de Mohamedou Touré.
Quand on est diabétique, on doit amener moins d'énergie dans le corps et l'énergie qu'on amène doit pouvoir être utilisée. Puisqu'on a un souci, un problème d'utilisation de cette énergie, on doit donc en amener moins. Le gras amène beaucoup d'énergie. Un gramme de graisse amène 9 kilocalories et le sucre, un gramme de sucre amène 4 kilocalories. Donc, on doit diminuer ces apports caloriques parce qu'on est diabétique, on ne pourra pas bien les utiliser sans médication, sans précaution particulière. Et c'est valable pour tout le monde. On doit manger moins gras, moins sucré et moins salé.
Au jour où nous sommes, on connaît le nombre de personnes atteintes par le diabète au Mali.
C'est une estimation. Pour avoir un chiffre exact, il faut faire des études épidémiologiques très poussées. Mais nous savons que par rapport à la Fédération internationale du diabète qui compile les données nationales et en relation avec les autres pays, la prévalence est de l'ordre de 6%. Donc si on prend 6% des 17 millions que nous sommes, il y a au moins 400 000 personnes diabétiques.
Studio Tamani, financé par l'Union européenne et les gouvernements de la Suède et du Royaume-Uni.
Écho de de nos régions, une journée de remise de diplômes aux élèves méritants de la région de Koulikoro a été organisée aujourd'hui. 100 élèves, qui ont une moyenne comprise entre 14 et 18, ont été sélectionnés. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la 4e édition de la journée du mérite, initiée par l'Académie d'enseignement de la localité. Plus de 100 personnes ont participé hier à un débat communautaire sur l'érosion des berges et son impact sur la sécurité alimentaire. Organisé par l'Union régionale des coopératives agricoles de Kai, ce débat a permis de sensibiliser les participants sur l'impact de ce phénomène et les manières de lutter contre. L'UNICEF a lancé ce matin un projet pour l'amélioration de la santé et l'éducation des enfants dans les régions de Sikasso et Mopti. Le programme, qui va coûter 180 milliards de francs CFA, va durer 5 ans. Une formation sur l'entrepreneuriat culturel a pris fin ce matin à Ségou. Une vingtaine de participants venus du Sénégal, du Burkina Faso, du Togo, du Bénin et du Mali ont préparé à la rencontre. La formation a permis de renforcer les capacités des participants sur les systèmes de financement de projets. La session de 4 jours a été organisée par l'Institut Coré des Arts et Métiers. C'est la fin de cette édition. Ne décrochez pas, car tout à l'heure, vous aurez le grand dialogue en live depuis la cité des Balanzans à Ségou. Aliou Sidibé, bonsoir.
Bonsoir, Mariam.
Alors, qu'avez-vous concocté pour nous ce soir?
Oui, nous allons parler ce soir. Nous allons parler de la gestion du foncier à Ségou, parce que nous savons qu'il y a plusieurs acteurs qui interviennent dans le domaine du foncier, et aussi qu'il existe une gestion foncière coutumière, une gestion foncière administrative. Donc, pour en parler ce soir, nous avons sous la main Barou Tougoula, chef de quartier de Médine à Ségou, Seydou Dembélé, chef service foncier et cadastre à l'Office du Niger, Niamazie Dissas de la société civile et Bakary Sidi Koulibaly, paysan.
Bon débat et nous vous écoutons.